Culture sans frontières.
Tout au long de ce week-end, le studio Alta à Prague est le cadre du festival du théâtre francophone, un festival appelé Mange ta grenouille. Parmi les invités de cette cinquième édition, un Canadien, Olivier Sylvestre. Olivier Sylvestre, venu présenter sa pièce au nom énigmatique et un tantinet provocateur, guide d'éducation sexuelle pour le nouveau millénaire. Une pièce à destination des jeunes, une pièce qui nous ramène à la veille du bug de l'an 2000, le tout dans une langue mêlant les particularités du québécois à la poésie la plus lyrique. Colin Gruel a rencontré le dramaturge Olivier Sylvestre.
Bonjour Olivier Sylvestre, merci de nous recevoir. Vous êtes à Prague à l'occasion du festival Mange ta grenouille. C'est le festival du théâtre français à Prague qui se tient tout ce week-end dans la capitale tchèque. Et vous y venez présenter votre pièce qui s'appelle Guide d'éducation sexuelle pour le nouveau millénaire. Alors racontez-nous comment va se passer cette présentation de cette pièce.
Ben en fait, j'en ai aucune idée. Ça, c'est ma première fois à Prague et aussi ma première fois au festival Mange ta grenouille, qui est le festival francophone ou franco-tchèque. Pour l'instant, en tout cas, l'accueil est très bon. Donc la pièce a été traduite cette année en tchèque et elle va être présentée en tchèque avec surtitres français à ce qu'on me dit.
Ben vous êtes arrivé hier à Prague. Vous avez pu assister quand même à des répétitions ou...
Non, pas du tout. Pas encore, donc je ne sais rien. Mais bref, faut savoir que c'est la deuxième fois seulement que la pièce va être présentée en public. Elle a eu une seule lecture à Montréal en 2017. C'est la première fois qu'elle va vivre et qu'elle va vivre dans une autre langue aussi. Donc c'est tout un honneur pour moi. Et j'ai bien hâte de voir quelle va être la réaction des gens, parce que c'est une pièce qui s'adresse d'abord aux adolescents, mais pas que. Et qui traite de manière un peu frontale de la sexualité. Donc c'est un peu le clin d'œil avec le titre de la pièce. Donc j'ai hâte de voir comment le public va réagir ici à Prague, puis s'il va y avoir des ados dans la salle peut-être, et quel genre de discussion on va avoir.
Pourquoi une lecture? Pourquoi avoir proposé une lecture et pas une représentation véritablement? Est-ce que c'est parce que la pièce a vocation à être seulement lue? Parce que je vois qu'il y a finalement très peu de didascalie dans le texte, surtout des indications musicales. Quel était votre projet?
Ben en fait c'est le projet du festival Mange ta grenouille. C'est des lectures. Je pense qu'ils sont elles sont un peu mises en espace, mais je pense que c'est globalement des lectures. Et l'idée donc après bon si c'est monté tant mieux, mais dans ce cas-ci même je pense que la lecture nous aide à faire passer le texte. Les pupitres sont un peu un appui aux acteurs puis au texte, je pense. Et oui, effectivement, moi je travaille beaucoup avec la narration dans mes textes, donc le texte est tout est dit dans les mots ou presque, donc je fais pas confiance au metteur en scène. Alors je mets pas de trucs en didascalie parce que je veux être sûr que tout soit dans le spectacle. Mais donc je fonctionne beaucoup comme ça, c'est-à-dire que les personnages à la fois ils vivent une situation avec l'autre et aussi ils se la racontent pour essayer de se l'interpréter et d'en faire un sens. Donc il y a comme cette espèce de double niveau là qui fluctue constamment.
Qu'est-ce que ça représente pour vous? On a un petit peu parlé que ça a été traduit en tchèque et que ça arrive dans un pays comme la République tchèque qui n'est pas le pays le plus avancé dans tout ce qui est droit LGBT, que vous abordez plus ou moins en filigrane dans votre pièce.
Ben en fait je sais pas du tout le contexte ici là, je connais pas le contexte du pays, mais c'est clair que de toute façon ce que je crois, c'est que la sexualité c'est tabou partout, même chez nous, même si les droits par exemple des LGBT, même si on peut dire les mentalités sont peut-être bon à un certain point, reste qu'il y a toujours des difficultés quand même, notamment auprès des adolescents, notamment auprès dans le système d'éducation et tout ça. Il y a de la résistance à parler de la sexualité, il y a toujours des tabous qui entourent ça, et donc je prends le pari qu'en fait cette pièce-là arrive à un moment dans un contexte culturel précis, et puis on essaie de faire avancer les gens d'un petit pas là, tu sais, juste d'essayer de mettre la table pour avoir une discussion sur ces sujets-là. Mais je n'émets pas de jugement par rapport au contexte où elle va être reçue, parce que j'en sais rien. Mais c'est clair que tant mieux si ça suscite des débats. C'est un peu l'objectif. Et pour moi, en tout cas, quand j'écris des pièces, pour moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui va rester ensuite. C'est-à-dire comment ça suscite quelque chose qui va rester, qui va accompagner les gens une fois que le spectacle va être fini. Donc, non seulement qu'ils passent un bon moment dans la salle avec nous, mais qu'une fois ils repartent, puis une fois que c'est terminé, ils repartent, puis qui restent avec quelque chose, avec un questionnement, avec un bon, voilà. Donc, c'est un peu ça mon je pense ma tâche comme auteur dramatique. Après, bon, ça m'appartient pas ce que les gens ramènent avec eux, mais voilà, c'est un peu ça l'idée.
Moi, j'ai plein de questions sur le titre de votre pièce, parce que j'adore Guide d'éducation sexuelle pour le nouveau millénaire. Bon, déjà, le problème que pose votre pièce, c'est qu'apparemment, la sexualité aurait changé quand on est passé à l'an 2000, non? C'est ça qui s'est passé?
Non, c'est-à-dire que donc ça met en scène trois personnages, deux garçons et une fille, qui sont en 1999, donc au moment où moi, j'avais 17 ans. Et je trouvais la symbolique intéressante entre le passage à l'an 2000 et le passage à avoir 18 ans, donc de devenir un homme ou une femme, en quelque sorte, et d'avoir à se définir, notamment au niveau de son orientation sexuelle, notamment au niveau de la sexualité, quelle sexualité on veut vivre, puis comment ça c'est censé nous définir comme humains ou pas. Et donc je trouvais ce parallèle-là intéressant, et c'est là que j'ai décidé de placer la pièce. Après, pour des ados aujourd'hui, donc qui n'étaient pas nés à l'époque où la pièce se passe, il y a comme une espèce d'effet de décalage temporel. Et donc mon parti pris, en fait, c'est que j'amène les ados d'aujourd'hui dans mon adolescence à moi. Et donc je me compromets aussi beaucoup parce que en fait, ben le personnage principal s'appelle Oli, donc c'est assez proche. Et je me dis c'est un peu le prix à payer pour parler de ces trucs-là que de parler de moi, en fait, et puis de me mettre un peu à nu, métaphoriquement parlant, et de comme je disais tout à l'heure, de mettre la table pour qu'on puisse parler après ça de ces sujets-là. C'est pas tant que la sexualité a changé, parce que je pense que même avec les applications de rencontres, même avec tout ce que la technologie nous a amené dans les années 2000, je pense quand même qu'on reste les mêmes humains avec les mêmes corps, les mêmes pulsions, les mêmes angoisses, et je pense que l'être humain n'a pas changé tant que ça malgré la technologie, parce que se retrouver avec le corps de quelqu'un d'autre, se retrouver dans l'intimité, ça reste quand même quelque chose de fort, d'inquiétant, qui nous fait vivre toutes sortes d'émotions. Et puis il faut quand même avoir à se définir par rapport à ça. Il faut quand même faire quelque chose quand on est avec quelqu'un. Donc je pense que ces questionnements-là n'ont pas tant changé.
Je vais essayer de poser ma question lentement, comme ça vous aurez le temps de vous servir du café si vous voulez. Effectivement, vous avez fait plusieurs fois référence à la volonté ou au besoin, merci, de se définir quand on arrive à cet âge de 18 ans, définir son orientation sexuelle, son genre. Et j'ai l'impression que vous, dans ce guide, vous cherchez justement à libérer les adolescents de toutes ces étiquettes. Parce que même si l'homosexualité est abordée dans votre pièce, on va jamais justement avoir ce mot homosexuel qui va apparaître. Non. C'est seulement dans les questions des journalistes que ça arrive.
Mm-hmm. En effet. Ben, c'est-à-dire que, évidemment que la pièce parle de ça, je m'en cache pas. Mais par contre, ça va plus loin que ça. Je pense qu'on Ça parle d'abord du désir, c'est-à-dire et moi ce que j'ai appelé un peu, ce que j'ai identifié comme étant le trouble dans le désir, c'est-à-dire qu'on a dans la vie des gens qui nous troublent, qu'on va rencontrer, qui vont nous troubler d'une façon ou d'une autre, que ce soit personnel, professionnel, intime, sexuel, et comment on se définit par rapport à ces gens-là. Et dans l'histoire, donc Oli à l'école rencontre Ben, qui était cette espèce d'être qui a pourtant le même âge que lui, mais qui a déjà sa puberté, qui est déjà un homme, et qui semble en tout cas avoir une vie sexuelle déjà bien entamée. Et ça, c'est très troublant parce que pour Oli, qui a déjà sa copine, qui a sa vie est organisée d'une certaine manière, pour lui, ça vient donc le perturber. Et c'est comment, en fait, on identifie ce qu'on ressent par rapport à cette personne-là, que ce soit, donc, est-ce que c'est de l'amitié très forte? Est-ce que c'est de l'admiration? Est-ce que c'est du désir, en fait? Et tout ça n'est pas incompatible, et ça se mêle aussi. Et donc, c'est ça un peu que j'ai cherché à développer au fur et à mesure de la pièce, en fait.
Vous m'avez dit que c'était toujours tabou de parler de sexualité, surtout de sexualité chez les jeunes, puisque très vite, il va y avoir une levée de bouclier, on l'a déjà vu à de nombreuses reprises. Alors ma question est tout simple, comment est-ce que cette pièce a été reçue quand vous l'avez lue pour la première fois? Est-ce que vous aviez peur déjà de ce type de réaction et finalement, est-ce qu'elles se sont concrétisées?
Bah, alors, faut savoir que je l'ai écrite pour ça, donc en fait, je l'ai écrite un peu en réaction à ma pièce précédente qui s'intitule « La loi de la gravité », qui est une pièce qui tourne pas mal en France et qui a joué aussi chez nous. Et en fait, quand cette pièce-là a été montée, elle a été un petit peu censurée parce que, bon, on parle de... C'est une pièce qui parle d'identité, de transidentité, pas énormément de sexualité comme telle, mais justement, le peu, on va dire le peu où j'allais dans les sujets sensibles, j'étais un peu censuré quand ça a été présenté. Et donc Guide d'éducation sexuelle est arrivé un peu en réaction à cette censure-là. Et je me suis dit, tiens, comme, en fait, on pourra pas censurer la pièce parce que, je veux dire, déjà dans le titre, et puis en plus, dans l'ensemble de la pièce, ce n'est que ça. Donc, ou à peu près, on tourne toujours autour du même pot. Et donc, on la présentera comme ça ou pas. Et là, donc, en fait, quand on a fait la première mise en lecture à Montréal, on l'a fait devant une centaine d'adolescents. Que j'avais été préparé un peu en classe, j'avais été les rencontrer, tout ça, on avait parlé de ces sujets-là. Et beaucoup d'ados, en fait, après la lecture, m'ont dit « Ah, je m'attendais vraiment à pire, tu sais. » Parce que, justement, ils sont tellement exposés à la pornographie, au trash, à tout ce qui va mal, que, soudainement, de parler du désir, d'en parler d'une autre manière, d'aller vraiment dans un parcours de trois ados, de trois humains, comme ça, qui se découvrent, pour eux, c'était très troublant et très nouveau, en fait, parce qu'ils n'ont pas justement accès à ce type de discours-là, où c'est pas présenté comme ça habituellement. Et donc ça m'a fait vraiment plaisir. Et puis en plus, les ados riaient beaucoup, il y avait beaucoup de plaisir. Donc ça aussi, ça m'a... Mais oui, évidemment, j'avais des appréhensions, mais les appréhensions, elles sont peut-être plus du côté des parents ou de la direction des écoles ou... que des ados eux-mêmes, parce que franchement, ils sont prêts à tout.
Si on sort un instant de la thématique de la sexualité, j'ai l'impression que ce passage à l'an 2000 porte quelque chose de très symbolique, de très fort. J'ai notamment relevé cette phrase du personnage de Ben qui dit à un moment « Moi, de toute façon, le futur, j'y crois pas trop. » J'arrive pas à retrouver la citation exacte.
Ouais,
c'est quelque chose que j'ai l'impression qu'on pourrait très bien l'entendre aussi dans la bouche de beaucoup de jeunes aujourd'hui, en fait, et pas seulement face à la difficulté posée par la sexualité, mais... par exemple, au changement climatique ou je ne sais quelle préoccupation très actuelle.
Ouais. Oui, tout à fait. Le personnage de Ben dit ça. C'est aussi quelque chose que moi, je ressens même à 37 ans aujourd'hui. Et je pense que ça peut être dit par des ados actuels, évidemment. Aussi, la chose, c'est que Ben, c'est un personnage assez ambigu, je pense, dans tous les sens du terme, mais aussi dans sa... on sent finalement qu'il est très seul et on sent qu'au niveau de le... Malgré son charisme, malgré tout ce qu'il dégage comme confiance, il peut être assez... Je pense qu'il est très seul. Et donc, oui, en fait, tout ce discours-là par rapport à l'an 2000, peut-être le possible... le fameux bug de l'an 2000 qu'on a traversé, finalement, mais donc tout le déluge potentiel qui s'en vient de des calamités, mais en fait on le vit d'autant plus maintenant, donc avec le réchauffement climatique, avec tout ce qu'on entend aux nouvelles. Donc oui, donc je pense que les parallèles ils sont pas compliqués à faire là, avec notre époque.
Vous m'avez dit avant le début de cet entretien que vous aviez un pied dans le théâtre, un pied dans la littérature, et ça se sent quand on lit votre texte, parce que même si vos personnages sont jeunes, vous n'avez pas du tout cherché à imiter un langage jeune, ce qui est quelque chose qu'on peut voir dans beaucoup de pièces de théâtre ou même ailleurs, et qui est souvent très agaçant. Et je cite quelques premières répliques au début de votre pièce. « Manger des Mr Freeze sur le bord de la piscine, puis courir se cacher quand il y a des guêpes, se frencher longtemps puis beaucoup jusqu'à avoir mal au nez, mal aux joues, la langue engourdie, puis rendre tout le monde jaloux, te mordre la lèvre sans faire exprès quand on arrive au bout du spaghetti qu'on mangeait à deux en partant chacun de son bout. » Alors je sais pas si vous allez avoir cette référence parfaitement franco-française, mais moi j'ai envie d'ajouter la phrase de Renaud et les Mistral gagnants. J'ai l'impression d'avoir une poésie comme ça,
ouais,
très belle.
Ouais. Non, j'assume complètement la petite rime, la poésie, et puis... si parfois dans la pièce il y a quand même un peu de mimétisme de mais c'est plus au niveau de la familiarité de la langue qu'au niveau d'appuyer sur le fait qu'ils ont 17 ans. J'aime bien travailler comme ça parce qu'en fait, surtout pour des pièces pour adolescents, ça les aide à sortir un peu de leur tête ou de leur univers en quelque sorte d'utiliser une langue qui n'est pas forcément la langue quotidienne qu'ils utilisent. Donc ça, c'est une chose. Et donc ça permet ce décalage-là dont je parlais tout à l'heure. Et puis c'est moins un miroir là d'eux que en fait les inviter à venir dans une histoire, ce qui pour moi est la fonction même du théâtre, c'est-à-dire qu'on met en scène quelque chose et on les invite à venir dans cet univers-là plutôt que d'essayer de leur présenter quelque chose qui est directement eux, alors que de toute façon moi j'ai 37 ans, donc je ne suis plus un adolescent, donc mon idée n'est pas de représenter fidèlement leur monde actuel, d'autant plus que c'est un monde révolu, cette époque est révolue. Mais c'était quoi la question exactement?
C'était autour de la... Je voulais juste vous entendre parler de la poésie, de la langue que vous utilisez dans votre pièce.
Ouais, ben en fait, c'est ça. Et donc, je prends ce parti pris-là, c'est-à-dire d'utiliser parfois des images ou un niveau de langue qui est un peu, oui, un peu poétique ou un peu... comment dire, avec un certain lyrisme, et j'assume complètement, et je pense que aussi on doit demander, on peut demander en tout cas au public de faire cet effort-là pour venir avec nous, et ça va être d'autant plus gratifiant pour eux, en fait, je pense.
Ça veut dire quoi, se frencher longtemps puis beaucoup?
Se frencher, c'est s'embrasser avec la langue.
D'accord.
Donc, c'est juste ça. C'est le fameux French kiss, mais nous, on en a fait un verbe, donc voilà.
Eh ben merci beaucoup Olivier Sylvestre. Alors guide d'éducation sexuelle pour le nouveau millénaire, ça passera au festival Mange ta grenouille dimanche, là c'est demain, le 12 mai, à 20h au studio Alta. Et puis vous m'avez dit que après vous partiez partout en Europe en fait.
C'est ça, après je m'en vais au festival Passage à Metz en France où je vais rejoindre mes amis de la Guyane. J'ai passé l'automne en Guyane française à créer un spectacle là-bas avec des Guyanais. Et donc je m'en vais rejoindre le spectacle qui s'appelle Les Verdicts Guyanais à Metz. Et ensuite Paris, Bruxelles et voilà, je continue mon périple et je retourne à Montréal à la fin du mois.
Merci beaucoup.
Merci à vous.